parole de Dieu. Dans 2 Rois 20. À cette époque, Ézéchias tomba malade. Il était près de mourir et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, se rendit à son chevet. Il lui dit : Voici ce que l'Éternel déclare : Prends tes dispositions, car tu vas mourir. Tu ne te rétabliras pas. Alors Ézéchias tourna son visage du côté du mur et pria l'Éternel en ces termes : De grâce, Éternel, tiens compte de ce que je me suis conduit devant toi avec fidélité, d'un cœur sans partage, et que j'ai fait ce que tu considères comme bien. Et Ézéchias versa d'abondantes larmes. Ésaïe n'avait pas encore quitté la cour centrale lorsque l'Éternel s'adressa à lui en disant : Retourne auprès d'Ézéchias, le chef de mon peuple, et dis-lui : Voici ce que l'Éternel, le Dieu de David, ton ancêtre, j'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Je vais te guérir. Après-demain, tu pourras te rendre au temple de l'Éternel. Je prolongerai ta vie de 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, du roi d'Assyrie, et je protégerai cette ville à cause de moi-même et à cause de David, mon serviteur. Ésaïe ordonna : Qu'on prenne une masse de figues. On la prit et on l'appliqua sur l'ulcère du roi, qui se rétablit. Un deuxième texte dans 2 Corinthiens 12. D'ailleurs, parce que ces révélations étaient extraordinaires, pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharde, tourmente mon corps. Elle me vient de Satan qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Au sujet de cette épreuve, j'ai prié par 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi. Mais il m'a répondu : Ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi.
Je viens de recevoir un message de Maryse. Et je voudrais vous le lire. Bonjour Eric, je pense que tu as eu des nouvelles par Pascal. Marc a commencé le réveil, les tests cliniques ont commencé et la jambe droite et la main bougent bien. Il respire seul, la jambe gauche aussi a réagi et je crois très fort dans la puissance de la prière. Cette nuit, la pression crânienne a fait une poussée. Paraît-il normal, un J+3. Ils ont rescanné et c'est toujours stable. Du coup, ils reprennent la sédation. Je suis tellement touché par cette chaîne de solidarité, par la foi en Jésus Sauveur et l'efficacité de la prière. Je voudrais que tu remercies toute l'Église de ma part et transmettre aussi à Vincent Miéville, le président de la commission synodale. Marc de Michely est vice-président de cette commission synodale. J'ai des messages d'amour, dit Maryse, et de soutien de tellement de frères et sœurs, par la grâce de Dieu. Maryse. Je suis troublé, plus que je n'aurais imaginé d'ailleurs. Et nous sommes troublés par ce qui arrive à notre frère et ami Marc. Et on veut se tenir dans l'unité, dans la prière, dans la communion, dans la solidarité, mais comment réagir quand survient la maladie ou l'accident ? Et la maladie ou l'accident, quand ils surviennent, nous interroge sur notre foi et nous ébranle. Et nos convictions ont tendance à voler en éclats même quand un proche vit une souffrance que l'on trouve souvent injuste, toujours injuste, ou disproportionnée. Pourquoi lui ? Pourquoi maintenant ? Je me souviens qu'un jour, quand notre fille avait 12 ans, Tamara, elle en a 30 maintenant, alors c'est toute proportion gardée, mais au mur d'escalade, elle s'était fait une entorse à la cheville. Elle avait pleuré toutes les larmes de son corps et puis elle s'était relevée en disant « Dieu m'a puni ». Et Yvonne et moi, on avait été sidérés parce que c'est pas ce qu'on lui avait appris de Dieu. Mais quand l'accident survient, la théologie notre théologie, notre pensée sur la souffrance, sur la maladie, sur l'accident, ont parfois tendance à déraper. On est déstabilisé, on vacille sur ses bases, justement parce qu'on est surpris par ce qui nous arrive ou qui arrive à quelqu'un de proche. Alors on a pris Tamara et on a essayé de lui redire l'amour de Dieu et la grâce de Dieu et l'espérance qui est en lui, avec plus ou moins de succès. On a essayé de lui redonner un cadre biblique pour appréhender sa souffrance toute relative, mais relative à une enfant de 12 ans. La maladie et l'accident nous déstabilisent et c'est normal, mais pour ne pas être complètement emportés dans notre foi et dans notre confiance, il nous faut pouvoir replacer l'accident, la maladie, dans le cadre solide et fiable de la parole. Et nous allons en parler à travers deux histoires que nous avons lues dans la Bible, deux histoires de malades ou d'accidentés de la vie. Celle d'Ézéchias, roi de Juda, au 7e siècle avant Jésus-Christ, et Paul, serviteur de l'Éternel, au 1er siècle après Jésus-Christ. Et je vous propose de parler, de refaire ce cadre biblique en cinq phrases. La première est peut-être la plus difficile à entendre ce matin, mais il me semble qu'il faut le dire. Se souvenir que ça arrive même au meilleur. Partout où on parle d'Ézéchias dans la Bible, on en parle dans Deux Rois, mais aussi dans Deux Chroniques et dans le prophète Ésaïe, on dit que c'est un type bien, Ézéchias, un type vraiment bien. Dans le livre des Chroniques, l'histoire d'Ézéchias commence par ces mots: « Ézéchias fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il purifie le temple, il réorganise le service du temple et surtout il résiste à l'envahisseur, le fameux Assyrien, le fameux Sennachérib qui assiège Jérusalem mais qui va rentrer à Ninive complètement bredouille. Pourquoi il rentre bredouille, Sennachérib? Parce que Ézéchias, le bon roi de Juda, est sur la place et est en place. Ézéchias est un héros. Par contre, il n'a pas de super pouvoir contre la maladie. Il est devenu roi à 25 ans et il est malade d'une maladie mortelle à 37-38 ans. Ésaïe vient à son chevet et lui dit de se préparer à quitter ce monde et de mettre de l'ordre dans son testament. 38 ans, on se dit que c'est jeune. Que c'est jeune pour un roi d'Israël, que c'est jeune pour un bon roi d'Israël. Et puis, on ne sait pas trop ce qu'il a, mais pour Paul, il s'agit certainement d'un handicap majeur, une maladie des yeux ou autre. Mais lui aussi est un héros de la foi. Avec Jésus, c'est le principal expanseur du christianisme, pour autant que ce mot existe. Il a fait d'énormes choses pour l'Église, il a implanté des églises. Il a ouvert l'Évangile aux païens, aux nations païennes. C'est un héros de la foi. Et ce handicap tombe sur lui. Pourquoi lui? C'est un serviteur tellement utile. La maladie, l'accident, ça arrive même au meilleur. Pourquoi? Eh bien parce que ni la maladie ni la souffrance ont un rapport avec le mérite. Jésus le disait aussi, il pleut sur les justes comme sur les injustes. Et le juste à l'époque, c'est celui qui plaît à Dieu, le meilleur moralement, mais il pleut aussi, ou il fait soleil aussi, sur lui, sur les justes comme sur les injustes, sur les bons comme sur les méchants. Il n'y a pas de protection particulière sur la personne qui serait meilleure que les autres. Et ceci parce que nous faisons partie du même monde et que nous sommes dans ce monde, nous sommes mortels. Et les maladies, les accidents, nous le rappellent, nous sommes mortels et notre corps, nous dit la Bible, est voué à la corruption. Calvin, le réformateur du XVIe siècle, appelait les maladies les petites morts. Ce qui n'est pas très réjouissant, je vous l'accorde, comme premier point, mais il me semble important de le rappeler, que nous allons mourir un jour et que nous allons être malades. Même si la mort et la maladie ne nous sont pas naturelles, Nous avons été créés pour vivre éternellement dans la communion avec Dieu. Il a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité, dit l'Ecclésiaste. Mais nous sommes mortels et les maladies sont le cours normal des choses et il faut nous préparer, ça arrive, même au meilleur, et ça n'arrive pas qu'aux autres non plus. Il faut nous le rappeler, même si cela ne fait pas spécialement plaisir à entendre. Et j'ai beaucoup hésité à dire ce premier point, mais il me semble qu'en ces circonstances, il faut le rappeler. Mais la Bible ajoute quelque chose qui pourrait paraître paradoxal, et c'est notre deuxième phrase. La Bible encourage à prier pour le rétablissement et la guérison de la personne. Et ce qui unit ces deux personnes, Ézéchias et Paul, alors que 7 siècles les séparent, c'est leur prière. Ces hommes sont malades et ils se tournent vers Dieu, vers le bon berger, vers Adonai Raphé, celui qui guérit. Et Ézéchias va le faire comme un homme de l'Ancien Testament. Il va faire valoir ce qu'il a fait pour Dieu. Alors Ézéchias tourna son visage du côté du mur et pria l'Éternel en ces termes: « De grâce éternelle, tiens compte de ce que je me suis conduit avec fidélité d'un cœur sans partage et que j'ai fait ce que tu considères comme bien. » Ça paraît un petit peu présomptueux. Mais en même temps, Ézéchias se montre d'une grande humilité. Il ne revendique pas, il en appelle à Dieu, à sa bonté, à son amour. Et dans le livre du prophète Ésaïe, Ésaïe, le prophète, parle d'Ézéchias et cite Ézéchias, qui écrit comme un poème, dont je vous lis seulement un extrait. « Je poussais, c'est Ézéchias qui parle, je poussais des cris comme l'hirondelle, ainsi que la colombe, je gémissais, mes yeux se sont lassés à regarder en haut, Éternel, je suis dans l'angoisse, viens et secours-moi. » C'est un cri d'Ézéchias. Un cri humble, une prière qui ne revendique rien mais qui s'adresse à Dieu, un Dieu personnel qui a compassion de ses enfants. La prière de Paul est beaucoup moins détaillée. Il dit que 3 fois il a prié pour que cette écharde dans son corps, ce handicap, cette maladie s'éloigne de lui. Soit il parle de 3 moments précis pendant lesquels il a prié, soit il s'agit d'une façon de parler pour décrire une prière intense, comme celle de Jésus à Gethsémané. Mais c'est une prière de supplication qui nous fait penser justement à ce texte de Marc 5, de la prière de Jaïrus, en voyant Jésus, Jaïrus se jeta à ses pieds et le supplia. C'est le même verbe que la prière de Paul. J'ai demandé 3 fois, j'ai supplié 3 fois que le Seigneur la retire de moi, cette écharpe dans ma chair. Il le supplia instamment, dit Jaïrus à Dieu, à Jésus, « Ma petite fille va mourir, viens lui imposer les mains pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. » Paul prie avec beaucoup d'insistance, il supplie pour être guéri comme Ézéchias l'a fait avant lui. Et la Bible nous encourage à prier pour la guérison et le rétablissement de la personne. Elle nous invite à le faire sans crainte, sans culpabilité, sans malaise, en toute simplicité. La Bible nous invite à nous décharger sur lui de tous nos soucis, car lui-même prend soin de nous et prend soin de notre frère et ami Marc. Elle nous invite aussi dans 1 Pierre 5,7 à faire connaître à Dieu nos besoins en toutes choses par la prière et des supplications et dans la reconnaissance. Oui, la Bible nous encourage à prier pour ceux qui sont malades, à prier pour leur rétablissement. J'aime bien ce mot « rétablissement ». Le mot « guérison » va aussi. Mais pour relever le malade. Il y a George Winston qui est le pasteur qui nous a fait confiance, Yvonne et moi. Il écrit dans son petit livre sur la souffrance, il encourage à tout dire, à tout raconter à Jésus. Troisième phrase pour remettre un cadre à quand la maladie survient. Se rappeler que la médecine joue un rôle dans la guérison. Et l'Éternel va entendre Ézéchias, il va lui accorder un sursis de 15 ans, il va guérir, il va le rétablir, mais on remarque une petite phrase intéressante présente dans tous les récits de la guérison d'Ézéchias, il y en a 3. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que Ésaïe a déjà dit à Ézéchias que Dieu allait le guérir, mais au verset 7, il dit « Ésaïe ordonna qu'on prenne une masse de figues, on la prit et on l'appliqua sur l'ulcère du roi qui se rétablit. » L'ulcère du roi qui se rétablit. Alors, on n'y comprend plus rien. C'est Dieu qui guérit ou ce sont les figues ? Les figues sont un remède connu au Moyen-Orient ancien, un médicament anti-inflammatoire. Et le texte ne choisit pas entre Dieu et les figues. Il parle des deux, des deux. Dieu et les figues. Ce sont Dieu et les figues qui rétablissent Ézéchias. L'un n'exclut pas l'autre. On pourrait parler de synergie qui travaille ensemble pour le bien de celui qui souffre. Et Ésaïe, prophète de Dieu, n'hésite pas à utiliser les médicaments de l'époque pour la guérison de son roi. Et ce n'est pas un manque de foi que d'appliquer des figues sur un ulcère alors qu'on a déjà prié pour la guérison. Et la leçon est évidente pour nous, alors qu'on entend parfois aux informations des nouvelles de groupes plus ou moins sectaires qui prescrivent à leurs adeptes de ne pas utiliser la médecine ou les médicaments pour guérir. C'est inepte. Et souvent, dans ces groupes, c'est la foi qui est mise en avant. La foi peut guérir sans médicaments. N'y aurait-il pas de l'orgueil là-dedans ? Ne serait-il pas un petit peu présomptueux de dire que l'on va guérir sans faire quoi que ce soit par la foi seule ? C'est le salut qui est par la foi seule. Cette foi qui voudrait guérir sans médicaments ou sans soins ne reviendrait-elle pas à un genre d'exploit sportif qui s'éloignerait beaucoup de l'humilité et du cri d'Ézéchias et de tous ceux qui sont souffrants et qui s'adressent à Dieu ? La parole de Dieu nous invite à utiliser tous les moyens connus et éprouvés, légitimes, pour lutter contre la maladie et contre toute souffrance dans le monde. Et Marc de Micheli est bien soigné à l'hôpital Pasteur. Et on veut être reconnaissant pour l'équipe médicale autour de lui. On les a vus à l'œuvre. Ils prennent soin de lui. Quatrième phrase, savoir accepter les silences, entre guillemets, de Dieu. Si Ézéchias est rétabli, Paul reste sans réponse par rapport à sa demande. Il reste avec sa maladie et son handicap. Et je me dis que Paul connaissait l'Ancien Testament beaucoup mieux que nous-mêmes. Il était versé dans les Écritures, pharisiens, à l'époque. Il a dû se poser des questions, il connaissait l'histoire d'Ézéchias, et il a dû se dire « Pourquoi Ézéchias et pas moi ?» Et nous nous posons la question « Pourquoi l'un et pas l'autre ? Pourquoi moi et pas les autres ? Pourquoi lui et pourquoi pas moi ?» Et si on est malade, on se dit « Pourquoi maintenant et pas plus tard ?» Et si la guérison n'arrive pas, pourquoi elle n'arrive pas maintenant ? Et tous ces pourquoi restent parfois sans réponse, et nous sommes appelés à accepter les non-réponses, peut-être même les silences de Dieu, et surtout ne pas rester bloqué avec ces pourquoi. La souffrance, la maladie pose inévitablement des questions, mais vouloir chercher des explications, des causes, ou pire, chercher des coupables, nous amène souvent à encore plus de souffrance. Les pourquoi nous tourmentent. Dieu nous invite dans sa parole à cesser de nous tourmenter et nous tourner avec confiance vers celui qui sait toutes choses et qui fait concourir toutes choses au bien suprême, au bien souverain, au bien qu'il connaît, que lui seul connaît, de celui qui aime Dieu et qui est appelé selon son bienveillant dessein. Et on sait que ce n'est pas facile quand on est au bout du rouleau, quand on est au fond du trou de la maladie, de se dire que Dieu a un projet bienveillant. Mais c'est pourtant le cas. Ce projet ne change pas selon les circonstances de la vie, selon les maladies ou les accidents de la vie. Le projet de Dieu, le projet bienveillant de Dieu ne change pas. On a peut-être du mal à le percevoir, mais lui ne change pas ce projet. Les choses cachées, dit le Deutéronome, j'aime bien ce verset, sont à l'Éternel. Les choses révélées sont à nous et à nos fils pour que nous les mettions en pratique, mais il reste des choses cachées. Il y a des choses qui demeurent inexpliquées, mais cela ne veut pas dire inexplicables. Un jour, et ça c'est notre espérance chrétienne, quand Jésus viendra nous chercher pour la résurrection finale, pour la guérison totale, pour la guérison des nations, comme il est dit dans l'Apocalypse, tout ceci, toutes ces questions, tous ces pourquoi sera éclairci, et comme le dit Paul dans 1 Corinthiens 13, nous connaîtrons comme nous avons été connus. Nous connaîtrons toutes les explications. Et Dieu essuiera toute larme de nos yeux. Alors Paul reçoit quand même une réponse. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Alors je n'étais pas là quand Paul a reçu cette parole, mais il est peu probable que Paul ait entendu une voix off qui disait ces mots-là. Je le vois plutôt Paul dans la prière et la réflexion, dans la méditation, dans la lecture de la Torah et peut-être dans les portions d'évangile qui étaient en l'air. Enfin, qui était, je trouve pas mes mots, dans ces portions d'évangile qui existaient à l'époque, la tradition orale, peut-être déjà des choses écrites. Il était en train de méditer et cette pensée mûrit progressivement et il arrive à cette conclusion que la grâce de Dieu lui suffisait pleinement, le remplissait pleinement. Que s'il n'avait pas eu de réponse par rapport à la guérison, il en avait une par rapport à l'amour inconditionnel de Dieu qui ne tient pas compte des mérites. Ma grâce qui repose sur toi te suffit. Cet amour inconditionnel de Dieu ne s'était pas éloigné de lui alors qu'il était malade, mais qu'au contraire, elle était bien présente, ou que Jésus était bien présent dans sa vie d'homme malade ou handicapé, et que Paul pouvait compter dessus. Et même, pensée extraordinaire qui ne peut venir que de l'Esprit-Saint, cette faiblesse pouvait servir de révélateur de la puissance de Dieu, de la gloire de Dieu, car ma puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Car la puissance de Dieu, s'accomplit dans ma faiblesse, dit Paul. Comme la photo à l'époque, la photographie apparaît dans le bain du révélateur, la puissance de Dieu est manifestée dans la faiblesse de l'homme malade ou handicapé. Et cela parfois sans passer par la guérison. J'ai souvent rendu visite à des personnes malades, très malades, en particulier des malades de la sclérose en plaques. J'ai fait mon mémoire de kinésithérapie sur la sclérose en plaques. Aussi des tétraplégiques. Je vous ai déjà parlé ici de Valentin, ce jeune Congolais, blessé par balle à Lubumbashi, à la moelle épinière. J'étais un jeune chrétien et jeune responsable d'église, Et je me disais fier, avec un petit peu de présomption, que j'allais leur faire du bien quand j'allais leur rendre visite. Mais c'était le contraire qui se passait, c'était eux qui me faisaient du bien. J'étais troublé quand je voyais leur appareillage. J'étais troublé quand j'ai vu Marc avec tous ses tuyaux et ses fils vendredi après-midi. Mais ce sont eux qui m'encourageaient par leur foi, leur bonté, leur assurance d'être au bénéfice de la grâce de Dieu. Je parle de Valentin et des sclérosés en plaques que je visitais. Et on devinait qu'il y avait eu dans leur vie des moments très difficiles pour eux et pour leur entourage, mais il y avait cette présence de Dieu et cette grâce au cœur même de la souffrance. Et pour Paul, c'était pour lui la leçon de sa maladie, de compter sur la grâce de Dieu, de s'en approcher et de la vivre pleinement. J'ai lu une histoire magnifique, c'est une femme trisomique qui a eu un père odieux envers elle. Et qui dit un jour, cette femme trisomique, en parlant de son père, « Il a changé, voilà la guérison. » La grâce de Dieu à l'œuvre dans la faiblesse. J'aime à dire que l'Église est un lieu de grâce, où l'on peut se reposer, où l'on peut s'accueillir mutuellement, malgré les différences, malgré la diversité d'origine. Mais elle est un lieu de grâce aussi pour les malades, pour les handicapés, où on s'accueille les uns les autres dans notre faiblesse, où l'on prie pour les malades, pour leur guérison, simplement et avec confiance. Et on se réjouit quand elle arrive, quand arrive le rétablissement, quand arrive la guérison, mais qu'on continue à accompagner quand elle n'arrive pas. Un lieu de grâce où l'on se préoccupe des malades et des accidentés de la vie, où on les porte comme les quatre amis ont porté leur ami paralytique vers Jésus à travers et qui ont fait un trou à travers le toit pour qu'ils puissent s'approcher de Jésus, plein de grâce et de vérité. L'Église, un lieu de grâce, pour que tous puissent être touchés par la grâce. Amen.